s'il y a encore des personnes qui nous rejoignent en cours de route. Bienvenue particulièrement à ceux qui nous ont rejoints cette semaine, qui n'étaient pas là la semaine passée. De toute façon, c'est souvent comme ça, ces soirées. Le public change un peu. Il y a un, il y a un autre, il y a tous les deux, tout d'un coup, il n'y a pas. Voilà, c'est aussi un peu l'imprévisible d'être parent, n'est-ce pas? On ne contrôle plus toute notre vie. C'est comme ça que ça marche. Donc, on essaie de faire comme on peut, mais on n'est pas toujours là. Bien, alors, ce soir, on va partager avec Corinne ce moment de présentation. On va prendre une petite pause ensemble et après, on va former, comme nous avons fait la semaine passée, des petits groupes. Et comme ça, on peut dialoguer un peu mieux autour des différents sujets. Donc, est-ce que tout le monde a un manuel de participants ou pas? Oui, non, non. Je ne sais pas, qui d'autre? Qui d'autre? Quelqu'un d'autre? C'est bien. Alors, j'ai aussi les... j'ai encore des copies du livre, hein, « L'art de vivre la famille ». J'ai pris avec moi quelques des prospectus que nous envoyons de temps à autre de ressources pour la famille. Donc voilà, il y a une petite sélection, vous pouvez en prendre volontiers si vous n'avez pas encore vu à la maison. Voilà, ça c'est le dernier qui est sorti. Voilà, une autre concernant les belles-mères, ça vous concerne certainement en couple. On en a presque toujours. Donc voilà, ils sont là à votre disposition, sans problème. Alors, la semaine passée, voyons voir si on arrive à... Ah oui, ça marche, nickel, c'est bien. La semaine passée, nous avons parlé au niveau des cœurs des enfants. Ah, je dis ça. Voilà. Et nous avons parlé sur le sens que on peut toucher le comportement de l'enfant, on peut essayer de régler un certain nombre de choses, mais finalement, dans le fond, ce que nous souhaitons, c'est qu'à l'intérieur de l'enfant, il y a véritablement une construction, que les choses ne se font pas parce qu'il faut les faire, mais les choses se font parce que c'est dans son cœur. Donc, nous avons regardé certains éléments qui peuvent bien affecter ça. Et effectivement, il y a des choses que nous pouvons retenir et dire, voilà, comment mieux construire. Alors, pour bien former et façonner, effectivement, on veut que nous avons une relation plutôt forte, solide. Et on peut se poser la question, comment faire ça? Ça ne semble pas trop compliqué, avec les enfants qui sont petits. Mais une fois qu'ils sont plus grands, qui a déjà des enfants à l'âge de l'adolescence? Quelqu'un? Oui? Ok. Parfois, on a des petits et des grands. Hein? Voilà. Mais ça ne semble pas trop compliqué en étant petit. Mais la plupart du temps, une fois qu'ils deviennent un peu plus grands, ils arrivent à 12, 13, 14, un bon nombre des parents disent, mais il se passe quoi? Et quelque part, ils se disent, qu'est-ce qu'on a fait de faux? Alors, peut-être rien dans le fond, mais ils ont bien ce sentiment. Mais quelque part, peut-être oui. Donc, on doit poser la question, comment depuis le début, nous pouvons construire une relation solide avec l'enfant? Et comment est-ce qu'on peut faire pour que la communication reste toujours ouverte? Ce n'est pas même une question de combien de mots nous allons dire. Oui, peut-être ça compte pour quelque chose, mais qu'est-ce qu'on raconte à l'enfant? Qu'est-ce que l'enfant nous raconte à nous? Et plus tard, pendant les années scolaires, une fois qu'on arrive à 7, 10, 13 ans, on se rend bien compte à un moment donné qu'il y a des choses qui se passent et nous, on n'en sait rien. L'enfant ne le raconte pas, pour différentes raisons. Mais on se voit que la communication n'est pas toujours aussi ouverte qu'on aimerait imaginer que ça soit. Comment faire? Et en plus, comment faire que malgré tout ce qui se passe, malgré certaines difficultés, malgré certaines choses que l'enfant puisse faire, ou certaines choses qu'il puisse même devenir, que nous aimons l'enfant et que l'enfant est confiant et puisse vraiment savoir qu'il est aimé. Qu'est-ce que ça veut dire véritablement? En parlant avec bien des personnes aujourd'hui, on se rend compte, et peut-être vous, vous pouvez dire quelque chose du semblable. Vous dites, mais voilà, je suis conscient que certainement mes parents m'aimaient, mais ils ne l'exprimaient pas beaucoup. Ou surtout on l'entend par rapport au père. Certainement mon père m'aimait, mais il ne disait pas. On l'entend assez fréquemment. Et donc on peut se poser la question, soit. Sur les questions, comment faire, combien de fois il faut dire quelque chose pour que ça se passe convenablement. Et évidemment, le moment de commencer, c'est le plus tôt possible. Alors, c'est plutôt simple pendant qu'il n'y a pas un vrai répondant de l'enfant. Voilà, c'est petit ce soir, voilà, j'arrive, je lui parle, il me fait un sourire, bon, il a certainement des gaz ou quelque chose, hein, c'est... Mais on a l'impression que ça fonctionne, la communication est simple. Mais plus tard, on doute un peu. On n'est pas toujours sûr. On ne sait pas si véritablement, surtout parce qu'on arrive à des moments de conflit, 2 ans, voilà, on se trouve continuellement en train de dire non. Et après, à 2 ans et demi, l'enfant qui commence à parler commence à dire non. Et on dit, pourquoi il dit non? Et oh, moi, c'est moi, je le dis tout le temps, évidemment. Il le dit. Donc, on se trouve dans une relation conflictueuse, parfois. Et en plus, voilà, on est des parents, on a des soucis, on a du travail, on est parfois en manque de sommeil, il y a peut-être un deuxième ou un troisième enfant, il faut partager le temps. Il y a un tas de choses, on a des parents qui sont malades, peut-être, il y a un tas de choses qui se passent, qui nous distraient, de notre relation avec l'enfant. Et tout ça, c'est difficile, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on essaie de voir comment faire pour bien faire ces questions. Et si on veut, ces choses-là se résument assez facilement. On peut dire, mais voilà, il y a une question de temps, il y a une question de communication, il y a une question de relation. En principe, il y a une conversation, on cause, on dit quelque chose, il y a un contact, donc il y a un contact même physique avec l'individu, l'enfant, qui est une vraie personne maintenant, qui est capable de commencer à se relationner intelligemment. Et il y a une question de regard, de vraiment savoir comment regarder l'enfant. Et je ne sais pas si vous avez une fois rencontré quelqu'un qui faisait 2,10 m, et vous vous rendez compte que c'est haut, 2,10 m, pour tenir une conversation. Alors l'enfant a le même problème, n'est-ce pas? On essaie de dialoguer, mais c'est quand même haut. Et à nous, quelque part, de trouver ce niveau, de dire comment je attrape le regard. Et l'enfant aussi, il veut attraper notre regard. Alors tout ça, ça prend du temps, n'est-ce pas? On est conscient. Il faut du temps. Alors, on a un dialogue sur ces dernières années qui nous dit, voilà, ce qui est important, c'est du temps de qualité. J'ai que 20 minutes, mais c'est 20 minutes de qualité. Oui, c'est juste. On ne dit pas que non. Mais probablement que 20 minutes n'est pas suffisamment au niveau quantité. Un enfant, il est réveillé un bon nombre d'heures par jour. S'il nous voit une demi-heure, 20 minutes, peut-être ce n'est pas assez. Mais vous savez, hein, des études qui nous montrent combien de temps les parents, particulièrement les pères, mais aujourd'hui c'est de plus en plus les mères aussi, passent par jour avec les enfants. C'est terriblement dérisoire. Hein? On arrive à des chiffres autour de 5 à 7 minutes par jour. c'est terrible. Parce qu'on dit, mais quand même, je suis là. Oui, mais pour l'enfant, tu n'es pas là. Tu es présent, mais tu es absent. Et donc, pour les mères aujourd'hui, surtout ceux qui tiennent le rythme du travail, on arrive un peu au même. Donc, on est conscient que si on compte véritablement, ce temps manque. Vous avez un petit exercice dans le livret, là, qui nous aide à compter. On peut regarder ça dans un instant. Donc, on va dire que ce n'est pas qu'une question de qualité, mais on veut une qualité, mais c'est aussi une question de quantité. Comment faire pour augmenter véritablement nos temps avec les enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent? J'ai lu il y a quelques années une étude qui a été faite, aux États-Unis d'ailleurs, sur des questions de scolarité des enfants. Ils ont étudié tous les enfants qui arrivaient au-delà du gymnase à l'éducation plus loin. Et ils se sont posé la question, quels sont les facteurs qui permettent à un enfant d'arriver à ce stade-là au niveau de son éducation? Et en fait, ils trouvaient qu'il n'y avait pas beaucoup de choses en commun. On trouvait des enfants, évidemment, avec des hauts QI, mais aussi avec pas beaucoup, bon, pas minimum impossible, mais des enfants tout à fait normaux, ou même plus bas que le moyen, sans problème. On trouvait des enfants de toute race, de tout type, de toute religion, de tout style. Une seule chose restait pratiquement toujours en commun avec ces enfants. La majorité, la grande majorité, ils avaient mangé en famille à la maison. C'est quelque chose. Donc on ne pense pas forcément l'influence que ça peut y avoir, mais effectivement, ce moment régulier d'être ensemble, de communiquer, de parler, de vivre dans la vie les uns des autres, c'est clé. C'est vraiment important. On peut aller dans des grands magasins, acheter des choses pour occuper nos enfants. C'est possible. Alors, aujourd'hui, peut-être la grand-maman est remplacée avec vidéo ou quelque chose d'autre. On peut acheter un tas de jouets, mais on ne remplace pas les personnes. On ne remplace pas le temps que nous allons mettre avec l'enfant. À la limite, un jouet avec lequel on peut jouer avec l'enfant a du sens. Ça nous aide dans cet engagement, n'est-ce pas? Mais dans le fond, si vous allez dépenser de l'argent pour vos enfants, il y a quelque chose de très important à retenir. C'est de ne pas dépenser sur les choses, mais de dépenser sur les expériences. C'est ce que vous faites ensemble qui construit votre relation. Tu peux acheter toutes sortes de cadeaux, mais dans le fond, cher, ou parfois pas cher, ça ne va pas très loin. Par contre, les choses qu'on fait ensemble, les voyages, les expériences, les musées, les sports, toutes sortes de choses qu'on fait ensemble, les jeux, ça, ça compte. C'est une expérience ensemble. Et ça, c'est vraiment valable. Les enfants ont des personnes au-delà des parents qui les consacrent du temps. Et ça, c'est bien. Si vous êtes, par exemple, mère célibataire, ou parfois ça pourrait être père célibataire, on se rend compte que c'est extrêmement difficile. Personne ne peut vraiment lever un enfant toute seule. Mais même deux parents peuvent difficilement, véritablement, encadrer un enfant. On a besoin de plus de monde. On a besoin d'une famille élargie. On a besoin des amis. On a besoin d'un groupe. Et de plus en plus avec l'enfant qui grandit. Et bien souvent, il y a de la famille, les grands-parents qui sont là, qui font un travail régulier de relation. J'avais un petit texte, je ne vais pas tout le lire, mais voilà. Une grand-maman, une dame qui n'a pas d'enfant. Tiens, écrit par un enfant. Et elle aime les petits garçons et les petites filles. Un grand-papa, c'est un monsieur grand-maman. Les grands-mamans n'ont rien à faire. Ils doivent juste être là. Et s'ils sont âgés, ils ne doivent pas jouer ou courir. C'est assez juste de nous conduire au magasin. Elle ne dit jamais « dépêche-toi ». Habituellement, elles sont grosses. Mais pas trop grosses pour pouvoir attacher des lacets de chaussures. Elles portent des lunettes, des sous-vêtements rigolos. Elles ne doivent pas être intelligentes. Juste répondre à des questions comme « Pourquoi les chiens détestent les chats ?» et « Comment se fait-il que Dieu ne soit pas marié ?» Et quand elles lisent, elles ne sortent jamais une page. Elles s'en fichent de lire plusieurs fois la même histoire. Tout le monde devrait essayer d'avoir une grand-maman, surtout sinon pas la télé, parce que les grands-mamans sont les seules qui ont beaucoup de temps. Ce temps est extraordinairement important au niveau de l'enfant. Donc l'enfant a besoin d'un certain nombre de choses, mais effectivement, le temps, c'est quelque chose qu'il a véritablement besoin. Alors, si vous regardez dans votre livret, à la page 12, sauf erreur, donc là, nous avons un petit plan où on peut évaluer le temps passé avec l'enfant. C'est bien, on ne va pas le remplir maintenant, mais c'est un exercice utile à faire, même de décider, ok, je scotche ça sur la paroi de la cuisine, et tous les jours, j'essaie de noter finalement combien de temps j'ai passé. Donc on tient juste pour notre propre intérêt une toute petite trace de ce qui se passe. Et donc après, on peut dire, ok, quelle est la situation pour nous et combien de temps, dans ce moment de qualité, est-ce que notre enfant a le sentiment d'être entendu et compris? La question n'est pas aussi simple que ça. Véritablement, comme adulte, on a énormément de peine à entrer dans le monde de l'enfant et de véritablement comprendre ce que l'enfant essaie de nous faire comprendre, de dire, etc. Et bien parfois, on prend les choses au contraire. La semaine passée, j'étais assis dans une église, je voyais un petit enfant qui arrivait, qui grimpait, et la maman qui venait pour chercher, pour les ramener à sa place. Mais une minute plus tard, il était de nouveau là, en train de grimper. Alors la maman, m'a donné, se fâche. Quel dommage! Parce que l'intention de l'enfant n'est pas de contrarier ce maman. Dans sa tête, il a trouvé un jeu. Il a trouvé un jeu qui fait que s'il va quelque part plus loin, la maman va venir, il va lui prendre, qu'il aime bien, et lui ramener du point de commencement où il peut recommencer. C'est un joli jeu qui montre que la maman le tient à l'œil et il a un peu de contact physique chaque fois. Pourquoi elle se fâche? Donc on a de la peine à comprendre pourquoi nos enfants font ou pourquoi ils disent certaines choses. Ça nous dépasse. Donc d'arriver à le niveau n'est pas de toute évidence. Mais quels sont nos sentiments? Là, vous avez une petite question. Quels sont vos sentiments quand vous pouvez sentir compris par quelqu'un? Qu'est-ce que vous avez comme sentiment? Et finalement, est-ce que ces sentiments-là sont des sentiments qui vont se transmettre à l'enfant? L'enfant est compris par le temps qu'on consacre. On ne peut pas comprendre si nous ne donnons pas du temps, n'est-ce pas? Ah voilà, j'ai une photo du grand-maman. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir à ces questions et je passe la parole à Corinne. Merci.
Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous diriez... Ah oui, le petit truc. Qu'est-ce que vous diriez quand quelqu'un vous écoute vraiment? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est quoi que vous mettriez comme mot dessus? De la valeur? Donc aimer, prise en compte, avoir de l'importance. Ben, c'est vrai, c'est toutes des choses qui sont vraies. Et si ça nous fait du bien à nous, c'est clair que des choses comme ça, ça va aussi faire du bien à nos enfants. Je vais juste voir si... Est-ce que des fois, il y a des trucs? Voilà. Ah non. Alors... Donc, notre objectif dans la communication avec nos enfants, ça doit être de les écouter, d'essayer de les comprendre et puis de les encourager. Comment est-ce qu'on peut faire pour les encourager et puis les écouter au mieux? Pour ceux qui sont adeptes de Super Nanny, elle nous en parle souvent, elle nous donne de bons conseils, je trouve. Elle dit qu'il faut se mettre à leur niveau physiquement. C'est-à-dire soit on s'accroupit, soit on se met à genoux ou on s'assied, pour que aussi on puisse les regarder dans les yeux. En fait, en les regardant dans les yeux aussi, ça veut dire que vous avez, qu'il a toute votre attention. Et puis, il faut essayer de ne pas faire deux choses à la fois. Bon, vous êtes à peu près sûr que votre enfant il vient vous discuter quand vous avez les mains dans la pâte ou que vous êtes en train de faire quelque chose de super important que vous ne pouvez pas vous arrêter. C'est des fois un petit peu compliqué. Mais pour ceux qui ont des parents, des enfants un tout petit peu plus âgés, le nombre de fois où ils nous ont dit « Mais tu ne m'écoutes pas !» Or que vous êtes là en train de faire autre chose, mais vous dites « Mais oui, je t'écoute !» D'une oreille, d'une autre, je fais quelque chose, puis avec le pied, je fais encore autre chose. Alors, c'est vrai, on fait beaucoup de choses à la fois. Mais pour eux, c'est important de savoir qu'ils ont notre attention, qu'on les écoute vraiment. On peut les rassurer. Hein, aussi en touchant leurs bras, en touchant leur tête, pour dire « je suis en communion avec toi, je t'écoute ». Et puis aussi une chose qui est importante, c'est d'attendre qu'il ait fini de parler. Je me rends compte que quand ils sont tout petits, c'est pas toujours évident, parce que déjà, ils parlent vite, et ils bégayent un peu parce qu'ils veulent aller trop vite, et puis on attend, et puis ça vient pas. Et puis des fois, on aimerait peut-être un petit peu activer ce qui se passe, ce qu'il est en train de dire, et puis c'est pas toujours ce que lui veut dire ou elle veut dire. Donc ça vaut vraiment la peine d'attendre qu'il ait fini de parler. Communiquer avec votre enfant, c'est aussi investir à long terme dans sa personnalité. Plus on parle avec lui, plus on le prépare à lui donner une compréhension de la vie et du monde. Et puis ce qui est aussi important, c'est qu'on lui apprend que ses pensées ont de la valeur pour nous, à nos yeux. Vous pouvez imaginer un scénario qui m'est arrivé, moi j'ai une fille, et puis un jour elle a reçu une petite jupe à carreaux, genre écossaise, que moi je trouvais très très jolie, et puis j'ai voulu lui faire mettre cette jupe, c'était un petit peu un combat de boxe. Alors, si mon but aurait été que de lui transmettre ma pensée et puis ce que moi j'avais en tête, ben j'aurais pu lui dire, écoute, cette jupe, elle est très belle, et puis elle a coûté très cher, c'est madame telle et telle qui te l'a offert, tu sais, elle n'a pas trop de sous, puis elle te va bien, t'es mignonne avec, mais non, t'arrêtes, puis tu mets cette jupe. Ce que j'ai fait, dans un premier temps, elle a pleuré, j'ai crié, on s'est fâché. Et puis voilà, ben personne n'était content et puis tout le monde est parti là où on devait aller, la tête un peu basse. Et puis une autre fois, quand j'ai voulu lui faire remettre cette jupe, que moi j'aimais bien, eh ben je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en elle. Alors je lui ai posé la question. J'ai dit, mais pourquoi ça t'embête tellement de mettre cette jupe? Alors, des fois, ils arrivent à vous répondre directement. Des fois, il faut un petit peu plus de temps. Et puis, il faut un petit peu creuser. Elle dit, elle est moche. Oui, mais elle est moche. Pourquoi? Elle est jolie. C'est quoi la couleur? Elle dit non. Et puis, moi, j'ai posé deux, trois questions. Et puis, au bout d'un moment, j'ai compris. Elle n'aimait pas les carreaux. Voilà. Tout bêtement, elle supporte pas les carreaux. Et puis, à l'heure actuelle, elle a 26 ans. Mais vous lui faites toujours pas mettre des carreaux. Voilà, c'est... après, je me suis dit, mais c'était un peu bête de se battre pour un truc à carreaux que, voilà, simplement, elle ne supportait pas. Mais n'empêche qu'en ayant cette discussion avec elle, eh ben, j'ai pu avoir un contact, un cœur à cœur avec elle, et puis j'ai pu avoir, ressentir, enfin, voir qu'est-ce qu'elle ressentait par rapport à ça. Et ça, c'était important. Je vais voir si... Je suis un peu perdue avec ce truc. La confiance en soi ne peut être transmise que par des parents aimants et accueillants. Des parents qui disent bonjour, qui félicitent, qui accordent de l'importance et de la présence, hein, comme on a dit tout à l'heure, leur dire à quel point ils comptent pour nous. Ce sont autant de points importants pour nourrir l'estime de soi et l'amour de soi. Puis avoir été, ça c'est important, parce qu'avoir été respecté dans l'enfance conditionne l'amour qu'on a de soi et la capacité à se faire respecter et à se protéger. Ben déjà aussi peut-être respecter ses goûts, respecter ses choix. Alors il y a peut-être des fois où on n'a peut-être pas trop le choix, puis on peut discuter, puis il y a des fois où c'est faisable. Et puis vos enfants aussi, ils peuvent parfois vous faire part de choses qui pour vous ne sont pas vraiment réelles. Du genre, oh mais moi je suis toujours tout seul à la récré, j'ai pas d'amis, personne ne m'aime. Puis vous savez que c'est peut-être pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait la réalité. Parce que vous savez qu'il a des amis, vous voyez bien à la récré que ça se passe, enfin ou vous savez que ça se passe pas si mal que ça. Mais c'est peut-être pas tout à fait la réalité, mais peut-être sur le moment c'est sa réalité. Puis ça, faut pas oublier que ce qui n'est peut-être pas tout à fait la réalité peut être sa réalité. Et puis l'auteur, il donne un exemple, l'auteur du cours, il donne un exemple par rapport à son fils qui justement disait qu'il était tout seul à la récré puis qu'il n'avait pas d'amis. Et il dit, un jour, ça nous a frappés. Qu'importe la réalité dans son esprit, il n'avait pas d'amis. Nous avons réalisé que nous avions besoin de changer notre manière de lui répondre. Nous avons commencé à mieux le comprendre et à le lui montrer. Nous lui avons donné des stratégies pour qu'il sache quoi faire dans la cour de récré. Nous lui avons donné des idées de jeux et de coloriage à faire afin que ses amis se rapprochent de lui. Il a très rapidement changé et a retrouvé sa joie de vivre habituelle. C'est vraiment marrant parce qu'il était quand même parfois encore tout seul dans la cour de la récré. Mais parce qu'il s'est senti compris par nous et que nous nous sentions concernés, il était plus apte à profiter de la vie dans la cour de récré. C'est tellement important pour nos enfants de croire et de savoir que nous les comprenons. Puis je pense que c'est un petit peu ça, la clé de cette histoire, c'est qu'il s'est senti compris. Ce qu'il ressentait, ça a été validé. Et ça, je pense que c'est important de valider ce que nos enfants disent et ce qu'ils vivent. Même si pour nous, ça peut paraître un peu des choses des fois qui sont peut-être petites ou parce que voilà, ils sont petits, ils ont des petites expériences de vie. Donc leurs petites expériences de vie, pour eux, c'est grand, ça représente énormément. Donc si on valide ce qu'ils nous disent et puis qu'on les aide, ça peut vraiment faire la différence. Maintenant, nous avons trois mondes. Nous avons le monde public, que tout le monde peut voir. Nous avons le monde personnel qui est destiné aux gens qui nous entourent, qu'on connaît. Et puis, il y a le monde privé qui est fait pour les personnes en qui nous avons confiance. Moi, je dirais même qu'on a un quatrième monde, c'est le jardin secret. Je ne sais pas vraiment si les enfants ont un jardin secret, puis à quel âge ils commencent à avoir un jardin secret. Mais le jardin secret, c'est là où on n'en parle pratiquement pas, où on en parle à Dieu, mais c'est quelque chose qu'on ne s'ouvre pratiquement jamais dessus. Puis de la même façon, ben, nos enfants, ils ont aussi ces mondes. Et parfois, ils nous invitent dans le monde privé. Quand ils nous invitent dans le monde privé, c'est souvent le soir, quand vous allez éteindre la lumière, ou la dernière petite phrase que, voilà, hein, je pense que certains rient parce que c'est peut-être effectivement ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est souvent à ce moment-là où ils vous disent « Papa, tu sais » ou « Maman, tu sais ». Et je pense que comment on va gérer ce moment-là, c'est très important. Parce que si on le bâcle, ou qu'on dit oh, maintenant tu dors, on n'a pas le temps, ou bien que ce qui commence à nous dire, eh ben on en rigole, ou on dit que ça n'a pas trop d'importance, ben on va peut-être se couper de ces moments où il va nous laisser entrer dans son monde privé qui est tellement important. Et en fait, si quand ils sont jeunes, ça nous semble peut-être anodin ce qu'il est en train de nous dire, mais si on prend soin de ce que notre enfant est en train de nous dire à ce moment-là, il y a bien des chances que par la suite, quand il sera plus grand, et puis que les choses qu'il va nous parler seront beaucoup moins enfantins, ben ils nous laisseront quand même aussi rentrer dans leur monde privé. On peut imaginer aussi ce scénario que quand une jeune fille, par exemple, vient, enfin une jeune fille, dans les tranches d'âge qu'on dit, vient vers son papa ou sa maman un soir en pleine conversation, puis tout d'un coup elle dit « Mais est-ce que tu me trouves jolie ?» Alors on a plusieurs façons de réagir. Hein. On peut dire « Mais oui, t'es bête, mais bien sûr que t'es jolie !» Un petit peu comme ça, on coupe la conversation, parce que soit on est en train de faire autre chose, soit on a la tête ailleurs. Alors peut-être que ça va effectivement la rassurer un peu. Mais par contre, on peut peut-être voir la chose d'une autre façon, puis de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? Et puis dire, mais oui, moi je te trouve jolie, je te trouve même belle. Je dis, mais t'es la plus belle pour moi, parce qu'en général, c'est de toute façon, je suis désolée, mais ma fille, c'est la plus belle. Même que maintenant, elle est adulte, mais ça a toujours été la plus belle. Alors, en tant que parents, on trouve toujours nos enfants très beaux. Donc on peut lui dire, mais oui, je te trouve même très belle. Il lui dit, mais qu'est-ce qui te fait me dire ça? Pourquoi tu me poses la question? C'est aussi une ouverture de dire, mais qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'elle a été critiquée à l'école ou que beaucoup de gens, enfin, elle a entendu peut-être des copines dire qu'elles étaient belles, etc. Puis pas elle, ou je ne sais pas, elle a peut-être... voilà, il y a besoin de creuser la conversation. Et puis de dire, mais pourquoi tu me poses cette question? C'est aussi une façon d'ouvrir le dialogue. Puis rappelons-nous que la communication, c'est l'art d'exprimer de manière sensible ce qui est dans nos cœurs. Et puis d'écouter, de comprendre ce qui est dans le cœur des autres. Donc si on veut aussi entrer dans le monde de nos enfants, ben, il faut aussi de le laisser entrer dans notre propre monde. Il faut le laisser, faut lui dire aussi nos rêves, nos espoirs, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on aime, la vision des choses qu'on a. Peut-être qu'après, ils seront plus aptes à partager avec nous aussi leur propre monde. Il faut juste faire attention de ne pas partager avec eux des soucis et des fardeaux que eux ne peuvent pas porter. Et puis moi, en aucun cas, il faut faire de nos confidents. Donc un enfant, ce n'est pas le confident des parents. Ça, c'est très important parce que ça peut faire des dégâts après, par la suite. Il y a certains enfants qui sont très prompts à parler. Vous n'avez pas trop besoin de leur dire quoi que ce soit. Ils sont toujours prêts à vous raconter tout ce qu'ils ont vécu. Et puis, il y en a d'autres, comme dirait ma collègue, c'est des taiseux. Donc, ceux-là, c'est des fois important, les autres aussi, mais peut-être encore plus particulièrement pour ceux-là, de construire avec eux une relation, de faire des choses. Ils ne vont pas vous parler spontanément. Il faut créer des endroits propices pour qu'il y ait des discussions. Que pouvons-nous faire pour établir des relations avec nos enfants et nous assurer qu'ils ressentent vraiment que nous les aimons? Donc il y a plusieurs choses, Paul en a déjà parlé, qu'on peut faire. Et puis entre autres, ben, comme on a déjà dit, c'est le temps. Il faut du temps. Pour tout ce qu'on aime, hein, ceux qui font du sport, ils savent qu'ils ont besoin de temps pour s'entraîner. Ceux qui font du jardinage, ils ont besoin de temps pour sarcler, pour que ça pousse. On a besoin de temps. Puis nos enfants aussi, ils prennent du temps et ils ont besoin de temps. Et c'est vrai que des fois, on a vraiment besoin de dégager du temps, surtout nous, qu'on a des fois des vies bien, bien remplies, parce qu'on en a plus deux qu'une. Donc, comment on peut faire avec nos enfants? Ben, c'est en faisant des choses ensemble. Faire des choses ensemble, ça peut être des choses toutes simples. Hein. Ça peut être aller à vélo, faire du patin, jardiner, manger, regarder un film. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire ensemble. Et vous avez certainement plein d'idées. Mais d'être ensemble pour faire des choses. Et peut-être même un papa qui doit bricoler, qui n'a peut-être pas trop de temps pour s'occuper de son enfant, eh ben, il peut peut-être prendre l'enfant avec lui et puis il va peut-être l'aider à faire un petit, ou lui donner un petit bout de bois pour que, je ne sais pas quoi, qu'il tape sur quelque chose. Mais on peut trouver des solutions, on peut avoir des idées. Et puis c'est faire des choses qui vont offrir un environnement puis des opportunités à la conversation. Aussi d'être ensemble ou d'aller aux champignons pour les adeptes de champignons. Des fois, quand on est en plus, si on n'est que deux ou en petit comité, c'est encore plus facile pour parler. Le deuxième point aussi, c'est s'encourager. Encourager avec nos mots. La Bible dit « Encouragez-vous les uns les autres et supportez-vous les uns les autres ». Le mot « encourager » signifie « redonner du courage », »,« mettre du courage en quelqu'un », nous rend capable d'aller plus loin. L'encouragement nous remonte le moral quand nous travaillons dur sur quelque chose et que nous nous demandons si nous sommes efficaces. L'encouragement nous aide à faire des choses que nous ne pensions pas pouvoir faire. Et l'encouragement nous aide à grandir dans la confiance quand nous apprenons à faire quelque chose de nouveau ensemble. À quelque part, tout ça, ce n'est pas des choses nouvelles que je vous apprends, c'est des choses que vous connaissez déjà. Mais des fois, on a comme besoin de les réentendre, puis de se dire, ah oui, c'est juste. Parce que quand on est dans le quotidien, et puis qu'on fait beaucoup de choses à la fois, qu'on a notre travail, qu'on a nos enfants, qu'on en a peut-être plusieurs, qu'il y a les leçons, etc. Des fois, c'est des choses toutes bêtes, mais qu'on oublie parce qu'on est dans le... Dans l'immédiat, il faut y aller. On n'a plus trop le temps d'y penser à toutes ces choses. Mais c'est important de s'encourager. Nous aimons tous entendre hein, des paroles d'encouragement et puis ça nous aide dans notre croissance. Et en tant qu'adulte, mais aussi en tant qu'enfant, on en a besoin. D'entendre des mots qui nous inspirent et qui nous donnent le courage. Moi, je me souviens, une fois, on avait été à un souper de PPE, et puis il y avait des jeunes enfants qui étaient là. Et puis une fois qu'on a eu fini le souper, eh ben, il y a été le moment du café. Ils avaient, des jeunes enfants, ils avaient entre 7 et 10 ans. Et puis, c'était des capsules Nespresso. Et les enfants se sont dit que c'était eux qui allaient nous faire le café. Alors, ils étaient tout excités, puis ils sont venus vers chacun d'entre nous pour nous dire quelle couleur on voulait, si vous voulez un grand café, un petit café, si on voulait du sucre, si on voulait de la crème, etc. Et puis, alors, ils nous ont fait les cafés. Puis, à mesure qu'ils apportaient les cafés, tous les gens qui étaient là, ils les félicitaient, puis ils les remerciaient. Et plus on les remerciait, plus ils prenaient soin de leur service. Plus ils étaient prompts, plus ils couraient dans tous les sens, ils revenaient deux, trois fois pour finir. Vous étiez tout nerveux, vous aviez bu tellement de café pour leur faire plaisir. Mais ils avaient un sourire qui, heureusement qu'il y avait les oreilles, parce qu'autrement il aurait dépassé de la tête. On sentait vraiment que ça les nourrissait, que ça faisait quelque chose de bien pour eux. Et en tant que parents, nous, on a vraiment le pouvoir d'encourager nos enfants. Et je trouve que ça, c'est beau de savoir qu'on a le pouvoir d'encourager nos enfants. Et puis ça, ça va faire la différence. Je ne sais plus si j'en ai loupé un. C'est plus facile à la maison parce que vous voyez les numéros. Lui, il a mis les photos, c'est bien. C'est exactement où c'est. Les mots sont très puissants. Donc ça vaut vraiment la peine d'encourager nos enfants. Bravo de t'être habillé tout seul. Toi, tu sais bien le faire maintenant. Tu es un grand garçon, une grande fille. Tu dis merci d'avoir vidé le lave-vaisselle. Il n'y a personne qui sait le faire aussi bien que toi. Tu mets ça comme il faut. Je crois que c'est vraiment intéressant. Et quand on dit que les mots sont très puissants, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire d'une femme qui a grandi dans une ferme et puis dont le père était épicier. Et puis, venait tous les jours le laitier. Et puis, le laitier, il disait à cette petite fille, il lui disait, « Comment va ma petite Miss Amérique ?» Et puis, cette fille, quand elle a commencé à être à l'école primaire, elle s'est dit que peut-être elle pourrait être un jour Miss Amérique. Pourquoi pas ? Ces mots, elle avait comme formé. Et puis quand elle a remporté la finale en 1980 du titre de Miss Amérique, ben elle a donné tout le crédit au laitier et aussi à Dieu pour ses talents, sa beauté et ses capacités. Alors, si vous y pensez, hein, vous pouvez dire tous les matins, « Comment va mon petit prix Nobel ?» Ou « Mon petit millionnaire, si vous préférez, ou mon petit Johnny Hallyday, ou je ne sais pas quoi. » Donc, vous pouvez, comme ça, la formater. On peut aussi écrire des mots d'encouragement. Combien ça peut être important. Moi, je me souviens, il y avait une pub. Je ne sais plus si c'était pour des mouchoirs ou pour je ne sais pas quoi, mais dans la pub, la maman, la fille ouvre, elle doit faire de la danse, elle ouvre son petit truc de gym et puis c'est marqué « Je t'aime ». Et puis après, c'est sa maman qui est au travail et puis elle ouvre son cartable et puis c'est la petite fille qui a écrit un petit mot d'amour à sa maman. Ah, Kinder ? Ah ben, chocolat. Ah ben voilà, je ne savais plus pourquoi c'était, mais je me souvenais du petit mot. C'est des choses qu'on peut faire, effectivement. Moi, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est une bonne idée de pouvoir mettre un petit post-it, d'autant plus maintenant avec les petits post-it, hein, parce que ça se... Mais on peut mettre un petit post-it ou même écrire dans une page de cahier, « Courage, on t'aime, t'es merveilleuse, ça va aller. » Enfin, des petits mots d'encouragement comme ça, dans différents endroits, dans son plumier, dans son pique-nique, enfin, où vous voulez. En plus, là, l'enfant pourra le lire et le relire, et puis ça lui fera vraiment beaucoup de bien. Maintenant, une chose qui est importante, c'est qu'on doit donner la liberté à nos enfants de faire des erreurs. On doit faire vraiment attention à la manière dont on dit les choses. C'est peut-être d'autant plus difficile pour les gens qui eux-mêmes ont de la peine à accepter de ne pas être parfait. Mais c'est difficile de sentir pour un enfant et même pour un adulte de penser qu'on est un raté. C'est horrible. Par exemple, si vous avez un enfant de 6 ans qui n'arrive pas à attacher ses souliers et puis que vous lui dites « mais tu devrais être capable d'attacher tes chaussures tout seul » et puis vous êtes en train de lui les attacher et tout, puis voilà, vous respectez. Bah, de toute façon, vous n'êtes pas très positif, donc personne y ressent du bien. On pourrait plutôt dire « je sais que tu as vraiment essayé d'attacher tes chaussures puis tu n'arrives pas encore, mais je vais te remontrer une fois, regarde bien, parce que la prochaine fois, tu vas y arriver. J'ai confiance en toi, on l'encourage, vas-y, tu vas y arriver. » Puis, il faut aussi faire attention à notre ton. Moi, je me suis souvent aperçue que des fois, on dit des choses. Nous, on a l'impression que ce qu'on a dit, c'était tout à fait normal, peut-être même avec un ton normal, mais la personne qui est en face de nous, elle ne le prend pas bien. Puis souvent, je me suis dit, mais on devrait s'enregistrer. Puis peut-être qu'on s'apercevrait qu'on ne dit pas les choses aussi calmement ou aussi avec de la joie comme on pense. Donc, il faut juste faire attention au ton qu'on utilise, prendre le bon ton. Et puis, si nos enfants craignent de faire des erreurs par peur de paraître stupides ou de se faire gronder ou je ne sais pas quoi, ben, ils ne vont pas oser explorer le monde. Ils ne vont pas oser donner leur maximum, le potentiel. Parce qu'il y a certaines choses, certaines personnes, ils disent « je préfère pas faire que de le faire faux ». Ils sont comme paralysés. Puis c'est dommage d'être paralysé, parce que même adulte, on est encore paralysé par des choses comme ça. Puis on n'ose rien faire, de peur de faire faux. Alors on est dans un statu quo. Or qu'à quelque part, ben, vas-y. Et puis si tu rates, je sais que tu as fait du mieux que tu peux. Tu sais, je t'aime toujours. T'es génial, t'es super. On va réessayer, faut persévérer. L'image de soi d'un enfant se construit aussi dans les yeux de ses parents, dans ce qu'il lui renvoie. On est le miroir. Hein. Et puis Christelle Petit-Collin, elle dit, enfin, nous explique les croyances auto-réalisatrices. C'est un peu comme l'histoire de la Miss Amérique. Nos enfants deviennent ce qu'on leur dit qu'ils sont. Il est important que vos enfants se voient beaux et intelligents dans votre regard. Lorsqu'on croit en un enfant, son potentiel double. Dans ce langage d'acceptation, il faut encourager votre enfant, l'aider à surmonter ses erreurs et à valider ses succès. C'est la base de la réussite. Et c'est vrai qu'il faut encourager tout, mais je pense que aider un enfant à surmonter ses erreurs et ses échecs, c'est vraiment important. Parce que toute notre vie, on en aura des échecs. On ne fera jamais juste. Mais s'ils n'ont pas appris à les surmonter, ça aussi, c'est difficile par la suite quand on est adulte. Donc, aidons-les à surmonter ces choses-là qui ne sont pas faciles. Le troisième point dans ça, c'est donner plein de câlins. Comme a dit Paul, ils ont fait des études où il y avait très peu de gens aussi qui touchaient leurs enfants, à part pour les habiller, les mettre dans la voiture, enfin des choses comme ça. Et combien c'est important de les prendre dans les bras et puis de leur donner des câlins. On ne communique pas l'amour juste par le verbal, mais aussi tout par le physique. Et nous, en tant que parents, on peut vraiment s'impliquer à ce niveau-là. Ma fille discutait une fois avec ses collègues, elles avaient une vingtaine d'années, et puis elles parlaient sur les meilleurs bisous. Quels étaient les meilleurs bisous? Et puis, elles ont été d'accord, toutes, pour dire que les meilleurs bisous, c'était ceux d'une maman. C'est rigolo, hein? Et puis certaines, elles étaient mariées. Mais elles ont dit, les bisous d'une maman, ils sont gratuits. Pas toujours le cas du mari. Des fois, c'est pas toujours le cas. C'est intéressé. Un quatrième point pour construire une relation consiste à respecter nos promesses. Alors ça, c'est facile à dire, mais alors qu'est-ce que c'est difficile à respecter? C'est pas toujours évident, parce que on est souvent, donc à nos enfants, on est souvent prompt à dire oui, et puis des fois, on a dit trop vite oui. Puis ça, c'est difficile après. Moi, je me souviens d'une fois où ma fille m'a demandé d'aller à la piscine, puis j'ai dit oui, comme ça, un petit peu sans trop réfléchir, puis après, je me suis aperçue que j'arriverais pas. Alors, je me suis dit que j'allais descendre dans le jardin en dessous de chez nous, et puis qu'on irait faire de la balançoire, du toboggan, et elle aurait des copains, puis que ça irait très bien comme ça, l'affaire était belle. Et quand je l'ai mis au lit le soir, et puis que je lui ai demandé si elle s'était bien amusée, elle m'a dit que oui, mais elle n'avait pas été à la piscine. Donc c'est des choses que ça aussi, voilà, il faut faire attention à nos promesses et à ce qu'on dit. Parce que si nous, on n'est pas fiables dans nos paroles, comment est-ce que nos enfants seront fiables dans les leurs? On doit être aussi des exemples à ce niveau-là. Le cinquième point dans la construction des relations, c'est dire régulièrement à nos enfants qu'on les aime. Ce n'est pas toujours facile parce que certains d'entre nous, on n'a peut-être pas beaucoup entendu que nous, on était aimés. Puis des fois, c'est difficile de le dire, mais ça vaut vraiment la peine de persévérer et puis d'utiliser, puis de dire à quelqu'un qu'on l'aime. Il faut utiliser toutes ces opportunités. Puis communiquer l'amour, c'est vital pour la croissance, pour tout le monde, c'est vital pour vivre. C'est comme l'essence pour une voiture, si on veut rouler, il faut de l'essence. Si on veut avancer, il faut qu'on soit aimé. Et puis comment savoir si le réservoir de notre enfant est plein? C'est de lui communiquer de l'amour correctement, par le bon langage. Qui c'est qui connaît les cinq langages de Gary Chapman? Pas tout le monde. Alors, on a des langages d'amour qui nous sont propres. Et puis, on doit apprendre justement quel est le langage de notre conjoint, mais de nos enfants. Des fois même, il faut peut-être aussi apprendre quel est le nôtre. Bien que nous, en général, on transmet notre amour par notre langage. Alors, les langages, les cinq langages, c'est paroles valorisantes, moments de qualité, cadeaux, services rendus et le contact physique. Les paroles valorisantes, pour certaines personnes, le fait qu'on leur dise qu'ils sont super, que ce qu'ils font c'est bien, de les valoriser par le langage, ça fait vraiment en eux une différence. Vous sentez que quand vous encouragez la personne, il y a quelque chose qui se passe en elle et puis elle est bien. Et quand un de vos enfants vient avec vous, avec un dessin, une chose qu'il a écrit, et puis qui vous dit « Regarde maman ce que j'ai fait, regarde papa », et puis vous voyez bien qu'il attend quelque chose, et puis que quand vous lui dites « Waouh, ah c'est bien, tu dessines super bien et tout », puis vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe en lui, c'est possible que ça soit son langage d'amour. Les temps de qualité, c'est vraiment des cœurs à cœur. Quand on passe un moment ensemble, mais qu'il y a quelque chose qui se passe, une connexion. Alors les gens qui ont ça, ils ont besoin de temps de qualité. Tout le monde en a besoin de temps de qualité. Mais ceux qui ont ce langage d'amour-là, ils ont plus besoin que les autres. Et quand un enfant vient vers vous et qui veut avoir un temps, vous sentez qu'il est tout le temps en train de rechercher votre contact, mais pas que le contact physique, qui veut avoir votre attention, qui veut parler avec vous, c'est peut-être qu'il a ce temps de qualité comme langage d'amour. Concernant les cadeaux, alors c'est souvent des gens, quand vous leur offrez une attention, ils se sentent valorisés. Je t'ai acheté ta revue de voiture préférée, je t'offre un petit bouquet de fleurs. Puis vous sentez que la personne, elle se sent bien quand on lui offre quelque chose. Elle-même, c'est quelqu'un qui va volontiers offrir des cadeaux, parce que quelqu'un qui aime en recevoir, en général, aime les offrir. Et l'enfant qui est tout le temps en train d'emballer ses petites choses, qui a été un crayon, un petit Lego et tout, il l'emballe, il le fait tout joli, puis qu'il l'offre, il vous l'offre, a peut-être ce langage-là d'amour. Et ça n'a pas besoin d'être cher, hein, c'est des attentions, c'est des petites choses comme ça, puis ça n'a pas besoin d'être trois fois par jour. C'est pas ça qu'on dit. Hein. Le langage d'amour dans le service rendu, c'est des personnes qui... elles se sentent valorisées quand quelqu'un dit « Oh, je te passe l'aspirateur, je te fais la vaisselle. » Puis, c'est pas « Ah, super, ben merci, ben voilà. » Ça fait quelque chose. Je me sens aimée quand mon mari ou ma femme me rend un service. Il y en a d'autres, ils diront... Si on dit « Ah, mais je t'ai fait la vaisselle, je t'ai pourtant passé l'aspirateur, alors t'es jamais contente. » Puis il dit « Mais moi, je m'en fous que tu me passes l'aspirateur. » Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on passe du temps ensemble. Donc voilà, ça c'est quelqu'un qui n'a pas le service rendu. Donc quelqu'un qui a vraiment, qui a le langage d'amour des services rendus, elle ou lui, ça lui fait du bien. C'est toujours bien qu'on nous aide, c'est toujours bien qu'on nous offre quelque chose, c'est toujours bien qu'on nous valorise. Mais des fois, il y a des petites choses qui sont un tout petit peu plus pour remplir notre réservoir. Et puis, quand un enfant, justement, est toujours en train de nous aider, qui veut nous aider, qui veut nous donner un coup de main, eh ben, peut-être qu'il a ce langage-là, et puis peut-être à nous de lui rendre aussi des petits services. C'est peut-être ça qui va rendre son réservoir plein. Et le dernier, c'est le toucher physique. Alors ça, c'est assez flagrant. C'est souvent des gens qui sont collés à vous, hein, qui, en général, il n'y a jamais de place. Quand ils s'asseyent tout près de vous. Il vous touche, et puis quand vous parlez, il vous touche tout le temps, il vous touche le bras, il a besoin d'un contact physique, ils aiment vous prendre les bras, ils aiment ça. Alors l'enfant qui a ça, ben, c'est l'enfant qui vous saute dessus, qui est tout le temps sur vos genoux, qui vous tripote les cheveux, qui vous caresse le visage. Et puis alors ben, lui, on peut vraiment utiliser les bisous et puis les câlins, là il n'y a pas de souci avec eux. Pas tous les enfants aiment ça, justement, mais ceux qui ont ça, ils aiment ça. Et quand ils sont petits, eh ben, ma foi, on ne sait pas toujours. Alors, on peut tous les utiliser et puis observer, et puis on trouvera lequel est celui de l'enfant. Maintenant, on peut se poser la question, quel est notre propre langage ? Qu'est-ce qui fait que je me sens aimée par mon partenaire ? Qu'est-ce que je demande le plus à mon partenaire ? Ou que fait ou dit mon partenaire qui me heurte ? Ou de quelle façon j'exprime mon amour à mon partenaire ? Parce que comme j'ai dit, souvent on exprime l'amour avec notre langage. Et puis pour conclure, si je dessine un graphique, enfin une courbe, que je mets 0 et 18 ans, l'influence et le contrôle, quand ils sont petits, on n'a pas d'influence sur eux. Par contre, à 18 ans, on peut avoir de l'influence sur eux. Par contre, on a beaucoup de contrôle quand ils sont tout petits, mais à 18 ans, on n'a plus beaucoup de contrôle, faut reconnaître. Donc, lorsque nos enfants sont petits, c'est vraiment le moment idéal pour travailler sur notre relation avec eux, pour pouvoir ensuite avoir de l'influence sur eux. Et puis notre but doit être de construire avec nos enfants une relation qui résistera au temps. C'est parce que nous passons du temps avec nos enfants maintenant, en construisant une relation de confiance, que nous établissons des fondements de la vie, de famille et de l'unité familiale. Et puis un dernier... Notre influence sera proportionnelle à l'effort que nous aurons fourni pour rendre les relations solides. Alors voilà, je crois que maintenant il y a un petit temps de pause, un petit temps de je ne sais pas quoi, une boisson ou bien ? Voilà, il y a une boisson et puis après, ben, on pourra se retrouver dans les petits groupes.